Au milieu de ces quelques hommes, de ces quelques femmes, il a découvert Marie. Sa mère venue le voir mourir, sa mère qui défaille, sa mère qui prie éperdument, sa mère qui pleure. Depuis 3 heures, il agonise. 3 fois, il parvient, au prix de quelques efforts, à proférer quelques mots. Il regarde cette foule qui rit de sa souffrance, qui s'amuse de son angoisse, et ce sont des paroles d'indulgence, d'amour, qu'il laisse entendre. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » De nouveau, il lutte contre l'asphyxie. Surprise, c'est de l'une des croix voisines que tombent d'autres paroles. L'un des bandits s'adresse à Jésus en ricanant « Puisque tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous !» Outré, l'autre voleur répond vertement à ce collègue « Pour nous, c'est justice, nous payons nos crimes, mais lui, il n'a pas fait de mal. » Et tâchant de se tourner vers Jésus, « Seigneur, quand tu seras parvenu dans ton royaume, souviens-toi de moi. » La voix oppressée de Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Bravant la brutalité des soldats, un jeune homme et 3 femmes s'approchent de la croix. Jean, l'apôtre, le disciple qu'il aimait, et Marie-Madeleine, et l'épouse de Clopas, et sa mère, oui Marie. Ainsi, elle a eu l'héroïsme de venir jusqu'au pied de la croix, recueillir les derniers mots, les derniers gestes, le dernier souffle de son fils. Elle les mêle, elle et Jean, dans le même amour, il dit à Marie en lui montrant Jean, « Femme, voici ton fils, et à Jean, voici ta mère. » Il les a confiés l'un à l'autre. Depuis ce jour, Marie habitera chez Jean. C'est chez lui qu'elle mourra. Pour la dernière fois, Jésus a tiré sur ses poignets saignants. Et il a crié vers le ciel ces paroles qui nous le rendent si profondément humains. « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et un peu plus tard, « J'ai soif. » Un soldat apitoyé s'en va imprégner une éponge de cette eau vinaigrée qui constitue la boisson ordinaire des légionnaires romains. Il la pique au bout d'une lance et la porte aux lèvres de Jésus. Une bouffée d'air, de cet air chaque fois si douloureusement acquis, il murmure « Tout est accompli. » De nouveau un grand cri, le dernier, le corps comme disloqué et retombé. Il est environ 3 heures de l'après-midi, et depuis midi, des nuages noirs se sont abattus sur Jérusalem, occultant les rayons du soleil. À l'instant même où Jésus vient de rendre l'âme, ces nuages s'épaississent encore, plongeant la ville dans ce que les évangélistes appellent les ténèbres. Au temple, les prêtres et les fidèles voient tout à coup se déchirer le rideau qui obstrue l'entrée du Saint des Saints, ce lieu interdit au commun des mortels. Au même moment, dans toute la région de Jérusalem, révèle l'apôtre Matthieu, la terre trembla, les rochers se fendirent. Au calvaire, au milieu de cette nuit tombée si soudainement, les soldats sentent le sol remuer sous leurs pas. Un tremblement de terre ? Sans doute. Mais pourquoi se produit-il à l'heure même où Jésus vient de mourir ? Pétrifié comme figé sur place, le centurion qui commande le détachement romain contemple le cadavre de l'homme mystérieux. Ce Jésus dont, avec les soldats, il s'est en moqué, bouleversé, il murmure « En vérité, cet homme était le Fils de Dieu. » Les 2 voleurs, eux, agonisent toujours. L'après-midi du vendredi s'avance. Bientôt s'annoncera l'heure du sabbat. Alors tout s'arrêtera en terre d'Israël. Plus question de détacher un mort de sa croix, de l'ensevelir, de le porter au tombeau. Au temple, les prêtres ne savent pas encore que Jésus est mort, mais ils s'inquiètent. Qu'arrivera-t-il s'il vit toujours au moment du sabbat ? Ils se précipitent chez Pilate, dont la patience est exposée à une nouvelle épreuve. Les prêtres l'adjurent de faire vite et de hâter la mort des condamnés du Golgotha. Décidément résigné à céder à toutes les exigences des Juifs, Pilate ordonne que l'on brise les jambes des hommes en croix, le procédé infaillible dont on use en pareil cas. Un messager galope au calvaire, transmet l'ordre du procurateur, et armé d'une barre de fer, les soldats se mettent en devoir d'obéir. Il ne faut que quelques minutes aux voleurs pour passer de vie à trépas. Parvenus devant Jésus, les soldats constatent étonnés qu'il est déjà mort. à quoi bon lui briser les jambes ? Pour que le décès ne puisse être mis en doute par personne, l'un des Romains se borne à lui transpercer le flanc avec sa lance. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau, écrit Jean. Resté au calvaire avec un petit groupe de fidèles, plus que probablement avec Marie. L'apôtre a été, de ces événements, le témoin douloureux, mais d'autant plus précieux pour l'histoire qu'il est unique. Les curieux, les indifférents, les soldats se sont retirés. Luc signale que seuls sont demeurées là ces femmes qui avaient accompagné Jésus. Admirez le courage de ces deux hommes, Joseph d'Arimathie et Nicodème, qui, pour la première fois de leur vie, avec les gestes maladroits que l'on devine, vont déclouer un cadavre, le descendre de la croix, étendre sur le corps ce corps nu disloqué, blafard, pour enfin l'envelopper dans le linceul que Joseph a pris la peine d'acheter à Jérusalem. Joseph et Nicodème soulèvent le corps, le linceul faisant probablement office de civière. Ils le portent jusqu'au tombeau. Ils roulent la meule sur le côté, déposent le cadavre sur la banquette de pierre ménagée à cet effet. Nicodème a apporté avec lui 100 livres, 32 kilos d'aromates, un mélange de myrrhe et d'aloès. On les laisse dans le tombeau, espérant que l'odeur contribuera à éviter la putréfaction. Il faut en effet attendre la fin du sabbat, donc le dimanche, pour laver le cadavre et procéder à ses applications d'huile et de parfum qui le prépareront pour l'éternel sommeil. Marie-Madeleine et Marie, l'épouse de Clopas, ultime fidèle entre les fidèles, ont suivi dans la nuit ce cortège dérisoire, un corps porté par deux hommes, sans rien de ce cérémonial, de ces chants et de ces prières dont les Juifs accompagnaient l'inhumation de leur mort, un enterrement quasi clandestin. Quand Joseph et Nicodème roulent la pierre, la fixent avec une cheville de bois pour qu'elle demeure solidement en place, quand les deux hommes s'éloignent, ce sont ces femmes, seules, qui vont demeurer là, éplorées dans la nuit, à considérer le lieu où repose ce mort qu'elles ont tant aimé, ce Jésus en qui elles ont mis toute leur foi. L'aube du dimanche répand à peine ses premières lueurs sur les toits de Jérusalem. Depuis la veille au soir, le sabbat a pris fin. Des femmes sortent de la ville par la porte d'Éphraïm. Elles s'avancent vers le Golgotha. Qui sont-elles ? La première, plus agile, plus ardente, c'est Marie-Madeleine, cette fille de Magdala, jeune et belle qui, depuis sa rencontre avec Jésus, ne vit plus que pour croire en lui. Et puis voici Marie, mère de l'apôtre Jacques. Voici une certaine Salomé, une Jeanne, d'autres. Elles sont 5 ou 6, pas davantage. Depuis le vendredi soir, elles ne vivent plus que dans la pensée de Jésus. Il a marqué à ce point leur vie, et elles l'ont tant aimé que, durant tout le sabbat, elles ont vacillé entre le chagrin et l'impatience. Pour elles, l'idée que le cadavre de Jésus ne reçoive pas tous les soins qu'exige la tradition juive, cette idée-là est insupportable. Impossible de se rendre au sépulcre pendant la nuit. À peine ont-elles vu l'obscurité faire place à l'aurore que, sans perdre un seul instant, elles se sont mises en route. Le premier jour de la semaine, dit encore Luc, le grand matin, elles vinrent au sépulcre portant les aromates qu'elles avaient préparés. Les hommes qui ont suivi Jésus, certains depuis 2 ans, se cachent, ils ont peur. Ces femmes qui courent vers le sépulcre savent parfaitement ce qu'elles risquent. Si elles ont triomphé de leur crainte, c'est parce que les femmes, vous le comprendrez un jour, sont souvent plus courageuses que les hommes. En chemin, elles se sont posées 20 fois cette question. Qui donc nous ôtera la pierre qui ferme l'entrée du sépulcre ? Elles gravissent la colline, s'avancent vers le sépulcre, elles découvrent que l'entrée est libre, ouverte, béante. La pierre a été roulée hors du tombeau. Sur le seuil, elles hésitent. Enfin, elles se hasardent, osent pénétrer dans la chambre funéraire. Elles scrutent la demi-obscurité. Personne. Le sépulcre est vide. Marie-Madeleine, la première, se décide. Dévalant la colline, elle court vers la ville, s'élance de rue en rue vers le lieu où elle s'est trouvé les apôtres. Les autres femmes, figées par la stupeur et l'anxiété, sont restées les unes devant le sépulcre, les autres à l'intérieur. Soudain, elle voit paraître deux hommes, vêtus de robes resplendissantes. Elle s'affole. Il les rassure. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit jadis en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Madeleine a trouvé les apôtres. Elle leur conte l'inconcevable nouvelle. Ils se moquent d'elle. Sûrement elle délire. Elle est en proie à la fièvre. Madeleine insiste, supplie, s'adresse à Pierre et Jean. Et parvint enfin à les convaincre. Il court vers le tombeau. Pierre se penche vers le sépulcre ouvert. Ayant avancé la tête, dit Luc, il ne voit que les linges. Ces linges, c'est le linceul ou suaire qui a enveloppé le corps de Jésus. Ce sont aussi les bandelettes qui, en serrant le cou et les chevilles, ont tenu ce linceul attaché. Jean est resté sur le seuil. Il raconte. Alors, donc, l'autre disciple, lui, Jean, entra aussi, et il vit, et il crut. Évangélique vous a été proposé par votre serviteur. Aujourd'hui, l'histoire de Jésus, sa passion et la fête de Pâques. Vous êtes à l'écoute de Radio Méga 90.9, la radio d'expression chrétienne de la région Montbéliard et Belfort. Radio Méga, la radio qui vous apporte l'essentiel de la vie. Amazing Grace, interprété par Douglas Ford et The Gordon Highlanders.